Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Dans un peu moins de deux semaines, le 29 septembre, les enchères pour le futur réseau à très haut débit de 5e génération débuteront en France et qu'on se le dise, il n'y aura pas de moratoire. Le président de la République, Emmanuel Macron, a été plus que clair à ce sujet il y a deux jours devant des entrepreneurs français du secteur des hautes technologies dénonçant le retour à la lampe à huile et le modèle des Amish, cette communauté religieuse américaine qui refuse la modernité jusqu'à l'électricité. Il répondait à une tribune réclamant de suspendre le déploiement de cette technologie, le temps d'en étudier l'impact et d'en discuter. 5G, nécessité ou danger, c'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, trois invités sont avec nous aujourd'hui dans ce studio. Marion Parizet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire générale du Millénaire. C'est un centre de réflexion spécialisé en politique publique et qui travaille à la refondation de la droite. Et vous êtes l'auteur d'un rapport sur la 5G. Et également, Sébastien Dumoulin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste technomédia au quotidien économique français Les Échos. Et par téléphone, Hugues Ferboeuf, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur des activités numériques au Shift Project, qui est un centre de réflexion sur la transition énergétique. Marion Parizet, on va commencer avec vous. Nous vivons dans un monde déjà très connecté. À quoi va servir la 5G? Quels secteurs sont concernés?
La 5G, il faut comprendre que c'est une rupture technologique profonde qui va affecter non seulement les usages individuels qu'on peut avoir en termes de fluidité, de l'information, pour avoir accès à des meilleures qualités de vidéo et autres, mais aussi profondément changer la façon dont on fonctionne sur le plan des industries, sur le plan de l'organisation de la ville, en permettant d'avoir recours, par exemple, à la télémédecine, de développer les véhicules autonomes, de développer des systèmes pour les industries également qui seraient plus économiques en optimisant les processus.
Ce qu'on appelle l'Internet des objets également ?
Également. C'est un des points parmi lesquels...
Alors, c'est quoi exactement l'Internet des objets? C'est le fait que les objets que vous utilisez quotidiennement soient reliés à Internet, c'est ça?
C'est ça. Ces ensembles d'objets, on parle notamment au départ, les montres connectées, c'était peut-être le premier qu'on a le plus intégré. Aujourd'hui, beaucoup d'autres objets deviennent connectés, les frigos, les lampes, pouvoir gérer à distance finalement depuis son téléphone comment éteindre son frigo, ses lampes, pouvoir veiller à sa sécurité, c'est de l'Internet des objets.
Mmh. Hugues Ferboeuf, est-ce que vous avez des réserves sur la 5G et quelles sont-elles?
Alors j'ai des réserves sur le fait de s'y lancer sans savoir vers où on veut aller. Donc je n'ai pas d'appréhension spécifique par rapport à la technologie 5G, mais en reprenant ce qui vient d'être dit, si on pense vraiment que la 5G est porteuse d'autant de changements structurels au sein de la société, il semble assez logique qu'il y ait un débat qui permette d'évaluer quels vont être les impacts, à la fois sur les plans économiques, sociétaux et environnementaux.
Vous trouvez que ce débat, pour l'instant, n'a pas eu suffisamment lieu ?
Alors je ne suis pas le seul à trouver que ça n'est pas le cas, puisque le Sénat a fait cette demande dès le mois de février et a remarqué en juillet que le débat n'était toujours pas en place. Et je pense que Sébastien Soriano, le président de l'ARCEP, vient d'ailleurs de reconnaître qu'il avait sous-estimé les impacts sociétaux et que c'était sans doute une des raisons des polémiques actuelles qui, en l'état, n'aboutissent pas à grand-chose.
Alors, on va y revenir. Sébastien Dumoulin, ça fait quand même un petit moment qu'on parle de la 5G. Plusieurs pays européens ont déjà distribué des licences aux opérateurs. Pourquoi, depuis deux jours, à part peut-être, et ça vous allez sans doute y revenir, la sémantique employée par Emmanuel Macron, pourquoi est-ce qu'il y a cette brusque montée en température dans ce débat en France?
Et ça fait un moment qu'il y a des tensions autour de ce sujet de la 5G. Ça fait un moment qu'il y a des associations qui essayent pour des raisons d'ordre sanitaire ou pour des raisons d'ordre environnemental de bloquer les enchères 5G. Maintenant, pourquoi est-ce que là, maintenant, il y a une soudaine crispation? Je pense que c'est l'échéance des enchères, effectivement. Le 29 septembre, les opérateurs sont amenés à dépenser des sommes très importantes. On parle de plus de 2 milliards d'euros pour acquérir des fréquences supplémentaires pour pouvoir lancer la 5G. Et ouais, cette échéance-là fait que le politique doit trancher et dire écoutez, ça fait maintenant plusieurs années que on prépare l'arrivée de cette nouvelle technologie. On pense qu'on en a besoin, donc il faut y aller. Et ce moment où on dit je fais un choix politique, je tranche le débat, c'est le moment où les opposants estiment qu'ils n'ont pas été entendus.
Marion Parizet, est-ce que vous estimez que ce débat, il a eu lieu? Est-ce qu'on en a suffisamment parlé?
Il y a eu un gros défaut depuis l'émergence du sujet 5G. Mmh. C'est un défaut de communication. Beaucoup de monde aujourd'hui encore ne comprend pas exactement ce qu'est la 5G. On pense que c'est juste une amélioration, qu'il y aura plus de données. Mais derrière, on a un vrai changement technologique.
Oui, on n'est pas juste un passage comme de la 3G à la 4G. C'est quelque chose de beaucoup plus large.
Hein. Et ça, on n'a pas pris le temps.
C'est pas juste une augmentation de la bande passante.
Hein. Voilà, exactement. On n'a pas pris le temps de l'expliquer aux gens. Et c'est normal qu'il y ait des crispations. D'autant plus que chaque changement de cet ordre-là et logiquement implique chacun des Français qui se pose la question pourquoi, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur ma vie, à moi, sur ma façon de travailler, de vivre au jour le jour. Mais là où on est dans un moment charnière, c'est que au-delà du débat qu'on n'a pas réussi à avoir en interne de suffisamment profond, on est sur une temporalité qu'on ne maîtrise pas, parce que derrière la 5G, nous ne sommes pas les seuls, nous ne sommes pas France fermée avec nos frontières, en train de travailler pour nous-mêmes. Nous avons derrière un conflit ouvert entre la Chine et les États-Unis, qui se joue aussi sur le plan de la 5G, avec les deux pays, les deux poids lourds finalement mondiaux actuellement, qui chacun développe leur propre système, cherche finalement à s'autonomiser et à gagner par le monde les pays à leur propre cause. Et finalement à recréer une forme de bipolarité du monde quand nous avions construit une sorte de multipolarité à la fin de la guerre froide.
Donc vous considérez que la France risque d'être déjà en retard par rapport à d'autres? La France et l'Europe d'ailleurs.
La France et l'Europe, bien que dans certains pays de l'Union européenne, une dizaine déjà, certains réseaux de 5G ont commencé à être développés.
Sébastien Dumoulin, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, je voulais revenir peut-être sur ce que disait Hugues Ferbeuf tout à l'heure, qui me paraissait très intéressant, c'est-à-dire que le débat qu'il regrette de ne pas suffisamment avoir vu se mettre en place, c'est un débat sur un choix de société qui est de dire est-ce qu'on veut aller vers cette société du tout connectée où on va avoir des millions d'objets qui vont rendre la ville intelligente, rendre les maisons intelligentes, que sais-je. Mais c'est un débat qui s'est fixé un peu illégitimement sur la 5G, parce que la 5G, finalement, c'est juste un
plus gros tuyau, c'est ça?
Non, mais c'est un protocole radio qui prend la succession de la 3G et de la 4G, qui va être plus efficace, qui va permettre juste pour les opérateurs de faire les choses exactement les mêmes choses de manière plus efficace et de rendre des services un peu meilleurs à certains publics, notamment les entreprises. Et en parallèle de ça, ils ont besoin de nouvelles fréquences pour pouvoir. Et donc, Il y a vraiment deux sujets différents, trois sujets différents. C'est-à-dire, d'un côté, il y a le protocole et on voit pas très bien pourquoi on s'y opposerait. C'est-à-dire que si la 5G est plus efficace que la 4G, qui était elle-même plus efficace que la 3G, tant mieux pour tout le monde. Le deuxième sujet, c'est celui des fréquences. Est-ce qu'il faut de nouvelles fréquences et l'augmentation de la consommation générale de vous, comme moi, comme de tous les Français, rend ces fréquences nécessaires? Et le troisième, c'est le sujet de plus long terme que pose Hugues Ferbeuf, qui est de dire vers quelle société est-ce qu'on veut aller?
Hugues Ferbeuf, est-ce que vous pensez ou est-ce que vous trouvez qu'on a sciemment occulté ce débat sociétal?
Moi, je ne suis pas dans la théorie du complot, donc je ne sais pas si c'est sciemment ou pas.
Enfin, vous le regrettez, en tout cas.
Il commence à se dégager un consensus sur le fait que, par rapport aux changements majeurs qu'on nous annonce, le débat n'a pas été ni suffisant, ni correctement organisé. Et je rebondis sur ce que disait l'interlocuteur précédent.
Sébastien Dumoulin.
Effectivement, la technologie 5G, en soi, n'est ni néfaste, ni positive. Elle est une évolution. Et la véritable question qui se pose, c'est à quoi veut-on l'utiliser? J'ajouterais que nous avons quelques mois pour nous poser ce type de questions, parce que les applications telles que la télémédecine, le véhicule autonome qui sont mises en avant pour justifier l'urgence de la 5G ne seront de toute façon pas disponibles avant une prochaine évolution de la 5G qui n'aura pas lieu avant 2023-2024. Donc nous pouvons prendre quelques mois pour nous demander à quoi nous voulons l'utiliser, comment nous voulons prioriser également nos investissements numériques, sachant que il y a un risque réel qu'avec le déploiement de la 5G, il y a plutôt une intensification de la fracture numérique que le contraire. Et donc avoir l'occasion de débattre de façon argumentée de l'ensemble de ces aspects, de façon à avoir ensuite un maximum, je dirais, de consensus alors autour de la 5G, mais je suis bien d'accord, plus généralement, autour de la façon dont nous voulons prioriser les usages numériques dans les 5 à 10 ans à venir.
Marion Parizet, vous voulez réagir ?
Oui, c'est vrai que cette question de se dire c'est que quelques mois, qu'est-ce que ça va changer ? C'est une vraie question, mais derrière, ce qu'il faut entendre aussi, c'est que un débat qui s'ouvre quelques mois de retard, déjà quelques mois, on ne sait pas si ça sera quelques mois, et derrière, ça veut dire aussi de l'incertitude pour les entreprises. Le manque de visibilité sur la période à laquelle le déploiement de la 5G sera effectif, c'est ne pas savoir quand est-ce qu'on pourra, ou si on pourra, se lancer dans des investissements. C'est ne pas savoir, du coup, si on pourra les rendre rentables. C'est prendre du retard, finalement, en termes d'innovation, et risquer d'être plus dépendant, derrière tout ça, aux innovations, aux technologies, aux équipements étrangers, aux solutions soft étrangères. Et derrière là, on a toujours le risque du conflit où l'Europe finira un peu en terrain de guerre.
Sébastien Dumoulin, il y a quand même une dimension politique importante dans cette affaire. On voit que la tribune pour un moratoire, elle est signée quelques jours avant par des leaders écologistes et de gauche, que les nouveaux maires verts de plusieurs grandes villes françaises s'y opposent. Est-ce qu'ils peuvent d'ailleurs ralentir le processus ? Est-ce qu'en tant que maire, on peut dire non, je ne suis pas d'accord pour qu'on mette des antennes 5G dans ma ville ?
Bah, j'en ai parlé à certains opérateurs et visiblement, en théorie, ils n'ont pas vraiment de moyens de s'y opposer stricto sensu juridiquement. Par contre, c'est très compliqué pour les opérateurs de faire sans les maires, disons qu'ils peuvent leur mettre des bâtons dans les roues de façon assez considérable. C'est difficile d'y aller avec des oppositions aussi aussi fortes. Après, effectivement, le débat est devenu politique et on... De mon point de vue, on peut le regretter parce que disons que sur les fondamentaux techniques, on a l'impression qu'ils ont été un peu laissés de côté et que les gens oublient que la 5G est une technologie et que cette technologie, elle a des atouts et qu'il faut peut-être les considérer. J'en prends deux. Le premier, c'est que c'est une technologie qui, pour la première fois, va permettre de dédier une petite partie du spectre à un usage spécifique. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, par exemple, les pompiers, par exemple, peuvent pas utiliser la 4G parce que si tout le monde se met à l'utiliser en même temps, on peut pas leur dédier un canal prioritaire.
C'est-à-dire qu'ils seraient prioritaires avec la 5G, ce serait possible.
On peut leur réserver un canal qui ne serait dédié qu'à eux. De même, la 5G apporte une autre évolution, c'est que elle a un temps de réaction qui est beaucoup plus rapide. Et donc, pour des applications comme la robotique et des choses comme ça, ça rend possible de le faire sur un réseau mobile, ce qui est pas possible aujourd'hui. Et tout ça, c'est des choses qu'on devrait considérer juste sur le plan technique en disant à quelle industrie est-ce que ça peut profiter, à quel type de service d'urgence est-ce que ça peut profiter et pourquoi se l'interdire.
Hugues Ferbeuf, vous parliez tout à l'heure des impacts sociétaux. Est-ce que vous pouvez développer ? Qu'est-ce que vous craignez ? Ou qu'est-ce qui peut changer dans la société, avec la 5G. Vous parliez notamment de fracture numérique.
Oui, alors il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, je vais essayer d'être concis. Tout d'abord, c'est une banalité de le dire, le numérique depuis une dizaine d'années a transformé nos vies. C'est-à-dire que, si je prends l'exemple du smartphone, nous avons de la peine à imaginer de pouvoir vivre sans un smartphone. Bon, mais à tel point que certains considèrent le numérique commence à, prendre le dessus sur nos capacités de décision. Il y a un très bon bouquin qui s'appelle « La civilisation du poisson rouge », où on explique clairement que nous déléguons de plus en plus de choses à notre smartphone et nous perdons par là même un certain nombre de nos capacités. Premier exemple. Deuxième exemple, on sait également maintenant avec un certain nombre d'études cliniques que l'abus des écrans est quelque chose qui réduit les capacités d'apprentissage, notamment des enfants. Bon, donc on s'aperçoit en fait que l'abus du numérique peut avoir des effets délétères. Et donc il s'agit en fait de reprendre notre souffle. La technologie a évolué beaucoup plus rapidement ces dernières années que notre capacité d'apprentissage. Et la 5G est clairement un effet potentiel d'accélérateur par rapport à ça. Mmh. Et donc la prochaine étape, par exemple, au-delà de la vidéo, c'est l'immersion qui est possible à travers des applications de réalité virtuelle. Et là, donc, la prise en charge de l'individu par l'interface numérique peut être encore beaucoup plus puissante. Donc il est justifié de se poser un certain nombre de questions. Et tout ceci a des conséquences sur la façon dont nous réfléchissons, dont nous vivons, dont nous interagissons avec nos semblables, etc.
D'accord. Marion Parizet, je vous coupe Hugues Ferbeuf. Marion Parizet, est-ce que ce déploiement de la 5G, c'est un élément important de la relance de l'économie en pleine crise sanitaire? On parle de plus de 2 milliards d'euros qui seraient payés progressivement par les opérateurs qui obtiendront les licences fin septembre. Est-ce que, en France, on adore avoir des débats, évidemment, c'est quelque chose que nous aimons d'ailleurs, ça s'appelle le débat du jour ici, on aime bien ça, mais est-ce qu'on a le temps de faire ça, selon vous?
On a le temps, on a même, je dirais, un devoir d'une certaine manière, parce que on se situe justement dans une période où notre système économique a été mis à l'épreuve par la crise sanitaire. Et aujourd'hui, on a des ambitions de réindustrialiser, de relancer cette dynamique économique. Et au final, le choix que feront les entreprises demain de peut-être se réinstaller en France, il sera aussi dicté par le système, les moyens, les infrastructures qui seront à leur disposition pour pouvoir développer leur activité. Et au final, la France a quand même pas mal d'atouts sur cette technologie aussi, parce que il y a souvent la question de l'énergie et du coût énergétique de la technologie qui est relevée. Mais la France a l'avantage de fournir de l'énergie principalement au nucléaire. Donc, sur le plan écologique, d'être relativement neutre vis-à-vis de cette évolution-là, contrairement
sur
par exemple
de l'émission de gaz à effet de serre,
voilà,
c'est ce
tout
que
à
vous
fait.
Voulez dire.
Contrairement à l'Allemagne où le passage, le refus du nucléaire a amené au redéveloppement du charbon.
Hugues Ferbeuf, sur cet aspect écologique et consommation électrique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
Sur l'aspect écologique, il y a plusieurs aspects. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, ce qui coûte le plus cher en termes d'empreinte carbone à la France, ce sont les équipements qu'elle importe de l'étranger. Or, la quasi-intégralité des équipements numériques viennent de l'étranger, notamment d'Asie. Clairement, si la mise en place de la 5G signifie d'abord une accélération du renouvellement des smartphones et ensuite une prolifération de modules numériques qui sont nécessaires pour mettre en place l'Internet des objets, oui, ça va forcément augmenter l'empreinte carbone du numérique français.
Ce que vous voulez dire, c'est que avec la 5G, pour en profiter, il faudra qu'on change tous nos smartphones, parce qu'actuellement, ils n'ont pas de plus 5G.
Voilà. Bien entendu. Aujourd'hui, le dernier iPhone vient de sortir, il n'y a toujours pas d'iPhone 5G, et donc on peut s'attendre à ce que le jour où le service 5G ouvre, des gens qui auront acheté un smartphone 6 mois plus tôt, attirés par l'offre mirobolante de leur opérateur, se précipiteront pour changer leur smartphone de façon à pouvoir prendre un abonnement 5G. Oui, c'est clair.
Marion Parizet.
C'est vraiment un problème qui se pose. Mais là où on peut réfléchir, effectivement, c'est aussi de proposer une véritable logique, une conception du cycle de vie des équipements. Le recyclage, aujourd'hui, on est quand même assez peu avancé à ce niveau-là. Et c'est peut-être plutôt là-dessus qu'on devrait jouer pour pouvoir
profiter au maximum. Il paraît qu'il y a 100 millions de téléphones qui dorment dans les tiroirs en France qui sont inutilisés.
Tout à fait. La plupart des gens ne savent pas quoi faire une fois qu'ils ont plus l'utilité d'avoir leur téléphone.
Peut-être plus surprenant, et là je m'adresse à vous, Sébastien Dumoulin.
Si vous permettez, sur la question des téléphones, je voulais quand même ajouter quelque chose, c'est que on ne sera pas obligé de jeter nos téléphones en décembre prochain parce que la 5G va arriver. Hein. Votre téléphone 4G, il va continuer à fonctionner, tout comme si aujourd'hui vous avez un téléphone 3G, vous pouvez parfaitement continuer à l'utiliser. En vrai, la vraie raison pour laquelle vous mettez votre téléphone dans un tiroir, alors que vous pourriez le rapporter dans un magasin pour qu'il soit recyclé, la vraie raison pour laquelle vous arrêtez de l'utiliser, c'est généralement que la batterie ou le logiciel ne marche plus très bien. Donc, c'est plutôt cette question-là qui est importante plutôt que le passage à la 5G. En fait, la 5G est un mauvais bouc émissaire pour le coup.
Alors, Sébastien Dumoulin, je reviens vers vous avec ma question, mais Hugues Ferboeuf veut réagir à cette affaire de téléphone.
Il suffirait en fait de mieux recycler les téléphones. Alors en fait, il faut pas confondre deux choses. La première chose, c'est le fait de pouvoir réparer un téléphone et de lui assurer effectivement une seconde vie. Par contre, recycler un téléphone, ça n'est aujourd'hui pas possible, parce que on utilise environ 70 métaux dans un téléphone, et donc à des concentrations et sous forme d'alliage qui sont à des quantités minimes que le recyclage est impossible. Donc aujourd'hui, il faut savoir que les méthodes de fabrication des équipements numériques ne nous permettent pas de les recycler et donc d'éviter l'accroissement de l'empreinte environnementale.
Sébastien Dumoulin, je reviens vers vous avec la question que j'ai pas eu le temps de vous poser, mais je tiens
désolé,
un petit
si
peu,
moi,
c'est pas grave,
coupé.
Pas de problème. C'est peut-être un petit peu plus surprenant, il y a certains opérateurs qui semblent un peu plus prudents que d'autres. J'ai cru comprendre que Bouygues Télécom, notamment, et SFR, eux, ils sont pas très sûrs de ce qui va se passer là le 29 septembre. Voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça?
Alors, pour être très honnête, quand on leur parle hors micro, il y en a aucun qui est super super chaud pour y aller. Parce que le problème, c'est qu'ils savent pas très bien comment ils vont rentabiliser cet énorme investissement. Là tout de suite en septembre, donc on va commencer par leur demander de débourser tout de suite près de 2 milliards d'euros pour voire plus, puisque c'est des enchères, pour acheter les fréquences. Ensuite, il va falloir acheter les antennes, les déployer, etc. Donc, ça va leur coûter très cher, et ils savent pas très bien qui est-ce qui va payer. C'est-à-dire que, soit vous et moi, on va accepter de souscrire un forfait 5G un petit peu plus cher que notre forfait 4G aujourd'hui, mais ça, c'est vraiment pas sûr, parce que, très honnêtement, pour la plupart des gens, la 4G, c'est amplement suffisant, pour l'instant.
Et quand elle fonctionne, absolument. Oui.
Voilà. Et le deuxième public auquel ils espèrent s'adresser, c'est effectivement les industries et les entreprises. Mais jusqu'à présent, là, ça fait déjà quelques années que l'ARCEP fait des appels du pied aux industriels en disant, nous, on met des fréquences à disposition pour faire des tests. Qui est-ce qui voudrait faire un port connecté? Qui est-ce qui voudrait faire un hôpital connecté? Et il n'y a pas tellement de réponses. Donc, les opérateurs sont un petit peu inquiets de savoir comment est-ce qu'ils vont pouvoir rentabiliser l'énorme investissement qu'ils vont faire. Et j'ajoute que la deuxième raison un peu cachée pour laquelle Bouygues et SFR en particulier sont particulièrement peu allants, c'est que l'État vient de leur dire plus ou moins officiellement qu'ils n'auraient pas le droit d'utiliser les antennes du chinois Huawei.
Oui, parce qu'ils ont ils ont de la technologie Huawei dans leur réseau actuel. Hein.
À peu près la moitié de leur réseau actuel. Et en fait, il est très compliqué de faire fonctionner les antennes 5G d'un nouvel équipementier sur ceux d'un autre industriel. Donc en gros, ils ne pourraient pas acheter des équipements 5G à un Européen et les brancher sur le même pylône où ils ont aujourd'hui déjà du Huawei. Donc ça va leur coûter encore plus cher qu'aux autres.
Marion Parizet, comment régler, je ne sais pas, mais en tout cas adoucir cette affaire de coût pour les opérateurs? Qui va en acheter finalement? Qui va l'utiliser? C'est vrai que pour l'instant, ça reste un petit peu nébuleux.
Dans un premier temps, c'est vrai que l'atout ne sera pas nécessairement évident pour toutes les entreprises. Malgré tout, on voit que à ce stade, déjà, certains opérateurs et certains constructeurs investissent déjà dans la technologie Huawei. Samsung l'a fait. La Commission européenne a aussi lancé un partenariat public-privé pour encourager le développement de la 5G et les utilisations. Donc il y a des moyens de financement qui existent et bien sûr, ça aura un coût. Comme à chaque changement de technologie, on a un risque qui devra être porté à un moment, un risque économique. Finalement, c'est aussi aux acteurs publics d'être capables d'encourager cela, sachant que les télécommunications sont quand même un secteur stratégique qui peut être, dans ce sens, appuyé par l'État et par l'Union européenne.
Hugues Ferboeuf, pour rebondir sur ce que disait Sébastien Dumoulin, il y a quand même des chances, je ne sais pas si raisonnable est le mot adéquat, mais que tout ça soit répercuté en partie au moins sur le consommateur, sur l'abonné.
Écoutez, d'abord, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Sébastien Dumoulin. Et oui, il va y avoir une répercussion sur le consommateur, mais peut-être pas celle que vous avez à l'esprit. Les opérateurs ont effectivement, dans leur business case interne, beaucoup de mal à trouver une rentabilité à cette opération. Étant donné qu'ils vont débourser quand même des sommes importantes, à la fois pour les enchères et pour les équipements, il est à craindre qu'en absence de rentabilité, ça aboutisse à une réduction des investissements sur d'autres choses. Et donc, il est à craindre notamment que le programme de comblement en fait des zones blanches en 4G prenne du retard plutôt que de l'avance. Et donc, s'il peut y avoir une conséquence, c'est en fait la continuation ou l'accroissement de cette facture numérique. Ça, c'est pour les consommateurs. Pour ce qui est des entreprises, je voudrais juste rajouter qu'effectivement, elles ne sont pas encore forcément très friandes de ce qu'on appelle l'usine 4.0 ou l'industrie 4.0, mais même si elles l'étaient, rien ne dit qu'elles s'appuieraient forcément sur la 5G pour le faire. Parce qu'il y a d'autres technologies disponibles et il y a également des approches de réseaux dits privatifs qui ne passeraient pas forcément par le réseau public. Et donc, ils ne généreraient aucun euro de chiffre d'affaires ni de bénéfices pour les opérateurs.
Marion Parizet, sur la mise à niveau du réseau, des réseaux, est-ce que le fait qu'on passe à la 5G, ça veut dire supprimer les réseaux précédents, 4G, 3G, Edge, comme on dit sur les téléphones?
Alors, notamment dans la première partie du déploiement, le réseau 5G va s'appuyer également sur le réseau 4G. Donc, il y a quand même vous me répondez si jamais il y a une erreur, mais il y a une utilisation qui est faite des antennes 4G. C'est une utilisation, par contre, qui est différente. Après, la question de la fracture territoriale, elle est réelle, mais c'est pour ça également que le gouvernement a inclus dans les cahiers des charges pour les enchères qui vont s'ouvrir une dimension justement de combler cette fracture territoriale, de déployer les réseaux au-delà de ce qu'ils sont actuellement et d'essayer de couvrir ces zones blanches. Reste à voir ce que les équipementiers et les opérateurs arriveront à proposer en termes concrets pour justement travailler sur ce problème-là.
Ça veut dire que si on veut télétravailler, ça je vous demande de répondre très rapidement, il faut que la 5G, il faut que ça suive, quoi, si on veut télétravailler de la campagne, pour le dire très clairement.
Oui, il faut.
Voilà. Merci beaucoup Marion Parizet, merci également à vous Sébastien Dumoulin d'avoir participé à cette émission, ainsi qu'à Hugues Ferboeuf qui était avec nous au téléphone. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Laurent Philippot. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur notre site internet rfi.fr ou sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique émission en 3G, en 4G pour l'instant, peut-être bientôt en 5G, on verra ça. Vous pouvez aussi participer au débat du jour sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Dans moins d'une minute, l'info revient sur RFI. Prenez soin de vous et des autres et bonjour chez vous.